Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sarr.
Moment de communion entre Benoît XVI et les six nouveaux cardinaux créés samedi en la solennité du Christ roi de l'univers. Le pape a rappelé la signification du royaume de Dieu. Il a appelé les croyants comme les cardinaux à participer à cette royauté et à ne pas se laisser séduire par la logique mondaine du pouvoir. Lors de l'Angélus, le pape a insisté sur ce thème, déclarant que le royaume de Dieu se manifeste dans la personne même du Christ qu'il a instauré via sa mort sur la croix et sa résurrection. Benoît XVI, après la prière de l'Angélus, a rappelé aux fidèles réunis place Saint-Pierre que samedi en Équateur avait eu lieu la béatification de sœur Maria Tonkate, une infirmière qui a longtemps travaillé avec les populations de la forêt amazonienne. Nous reviendrons sur cette figure aimée des Équatoriens. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, Catherine Aubin recevra le philosophe français Manuel Gabellieri qui a longtemps travaillé sur une autre philosophe, Simone Veil. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le royaume de Dieu est un royaume totalement différent des royaumes terrestres. Benoît XVI, entouré par les six cardinaux qu'il a créés samedi lors du 5e consistoire de son pontificat, a célébré la messe en la basilique Saint-Pierre en la solennité du Christ roi de l'univers qui clôt l'année liturgique. Cette fête a été instituée par Pie XI en 1925 et affirme la domination du Christ sur toute la création. Pie XI souhaitait ainsi rappeler que toutes les nations ont un seul roi, Jésus. En présence donc des délégations officielles qui ont accompagné les six nouveaux cardinaux et des fidèles venus notamment des Philippines, d'Inde, du Liban, de Colombie ou du Nigeria, Benoît XVI est revenu dans son homélie sur ce que signifie le royaume de Dieu, celui dont parlait Jésus à Pilate qui l'interrogeait. Retour sur cette célébration avec Justine Vassagne.
Benoît XVI clôt l'année liturgique avec un rappel clair et net. Le royaume de Dieu est un royaume totalement différent des royaumes terrestres. Il ne se fonde pas sur les armes et sur la violence. Jésus, en répondant à Pilate qui lui demande s'il est le roi des Juifs, explique que son règne n'est pas un pouvoir mondain, mais un amour qui sert. Il précise que son règne ne doit pas être absolument confondu avec un règne politique quelconque. Le pape souligne bien la dimension pacifique de ce royaume. Jésus ne veut pas être défendu par les armes, mais il veut accomplir jusqu'au bout la volonté de son Père et établir son royaume non pas par les armes et la violence, mais par la faiblesse apparente de l'amour qui donne la vie.
La vérité d'un Dieu qui est amour et qui veut établir un règne de justice, d'amour et de paix.
Car Dieu est amour et veut établir un royaume de justice, d'amour et de paix. Celui qui est ouvert à l'amour écoute ce témoignage et l'accueille avec foi pour entrer dans le royaume de Dieu, poursuit Benoît XVI. La royauté annoncée par Jésus est la royauté de la vérité, l'unique qui donne à toute chose sa lumière et sa grandeur. Le pape rappelle ensuite aux fidèles que nous aussi nous participons à la royauté du Christ. Être disciple de Jésus signifie donc ne pas se laisser séduire par la logique mondaine du pouvoir, mais apporter au monde la lumière, de la vérité et de l'amour de Dieu. Une invite s'adresser également aux nouveaux cardinaux qui sont appelés par Benoît XVI à rendre témoignage au règne de Dieu, à la vérité. Cela signifie faire émerger toujours la priorité de Dieu et de sa volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. C'est une invitation pressante que nous a envoyé le Christ alors même qu'il s'engageait sur le chemin de la passion et que la foule ne le comprenait pas. Une invitation valable pour tous les croyants.
Justine Vassagne. Et au tout début de la cérémonie, le cardinal Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs et longtemps préfet de la maison pontificale, a lu un message de remerciement et d'hommage à Benoît XVI qui lui a conféré la pourpre samedi. Le nouveau cardinal a salué le pape comme un grand théologien que le monde et l'Église ont appris après 7 ans et demi de pontificat à mieux connaître. Votre extraordinaire possession de la vérité de la doctrine chrétienne et votre singulière capacité à rendre vivante cette vérité au travers des catéchèses et les homélies puisent leurs racines dans une foi profonde, a-t-il ainsi déclaré. Comme source de cette maîtrise, une raison simple selon le cardinal, le contact continu avec le Verbe divin. Le cardinal Harvey est revenu également sur la nouvelle évangélisation et sur le fait que lui et tous les autres cardinaux vont s'engager à mettre au service du monde le don le plus beau dont nous sommes capables, partager avec toute l'humanité la voie, la vérité et la vie. Après avoir célébré la messe en la basilique Saint-Pierre, Benoît XVI a récité comme tous les dimanches la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de son appartement apostolique au Vatican. Le pape est revenu dans son commentaire de l'évangile sur la signification du royaume de Dieu dont il est question donc dans la lecture de ce jour. Toute la mission de Jésus et le contenu de son message consiste à annoncer le royaume de Dieu et le faire vivre au milieu des hommes par des signes et des prodiges, a notamment déclaré Benoît XVI. Le royaume de Dieu se manifeste dans la personne même du Christ qu'il a instauré via sa mort sur la croix et sa résurrection, a-t-il poursuivi. Ce royaume du Christ a été confié à l'Église, qui a pour tâche de l'annoncer et le diffuser parmi les gens avec la force de l'Esprit-Saint. Mais les fidèles sont eux aussi appelés à s'impliquer et à prolonger l'œuvre salvifique de Dieu en se convertissant à l'Évangile, se mettant avec conviction à la suite de ce roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour témoigner à la vérité, a enfin expliqué le pape. À l'issue de la prière, le pape s'est ensuite adressé aux pèlerins francophones, parmi lesquels de nombreux Libanais venus accompagner sa béatitude Boutros Rai, le patriarche maronite créé cardinal samedi. On écoute donc Benoît XVI en français.
Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les Libanais, venus nombreux accompagner leur nouveau cardinal. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Sa royauté ne réside pas dans le pouvoir, l'honneur, la richesse, mais dans la faiblesse et l'anéantissement de la croix, par amour pour nous sauver. Laissons le Christ convertir nos cœurs et nos mentalités pour reconnaître que la véritable grandeur de l'homme et sa plénitude sont uniquement dans l'être avec Dieu et dans l'amour reçu et donné. Puisse sa bénédiction descendre sur toute l'humanité et la conduire vers la paix. Bonne fête à tous.
Benoît XVI en français lors de l'Angélus ce dimanche midi. Après cette prière, Benoît XVI est également revenu sur la béatification samedi en Équateur de la bienheureuse Maria Troncati, sœur des filles de Marie Auxiliatrice, née en Italie. Le pape l'a présentée ainsi, infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Elle partit ensuite pour l'Équateur où elle se dépensa sans compter au service des populations de la jungle, de l'évangélisation et la promotion de l'homme. La cérémonie de béatification a lieu dans la ville de Macas. C'est le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, qui a présidé la cérémonie. Proche du peuple de l'Amazonie équatorienne, les Chouars, sœur Maria Troncati fut l'une des premières missionnaires italiennes à avoir servi les habitants avec ses consoeurs, donc en pleine forêt amazonienne. Nadège Descramps.
Sœur Maria Troncati, ou l'histoire d'une femme religieuse en pleine forêt amazonienne. Née le 16 février 1883 à Brescia, en Italie, Maria Troncati dédiera 47 ans de sa vie à l'Équateur, mais surtout aux indigènes. Un parcours singulier, alors qu'elle se prédestinait à aider les lépreux en Afrique. Obéissante, elle attend 18 ans pour demander à être admise chez les sœurs de Marie Auxiliatrice. Selon sœur Maria Colino, fille de Marie Auxiliatrice aujourd'hui qui a réalisé sa biographie, sœur Maria Troncati aurait pu être définie en une seule parole. Oui.
Elle s'est toujours dévouée aux autres, totalement, pour les petites et les grandes choses de la vie, avec humilité. Elle disait toujours oui, pas un oui prononcé à la légère, oui au sacrifice, au don de soi, même quand c'était difficile, quand tout le monde l'appelait pour des besoins, des questions ou des problèmes. Sa réponse était « Vamos, allons-y ».
Infirmière pour la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale, elle ira soigner les indigènes et réalisera de petites opérations chirurgicales. 1922, son grand départ. Elle part pour les missions salésiennes d'Équateur oriental. Missionnaire de la première heure dans la forêt amazonienne, elle commencera avec une communauté de sœurs un long travail d'évangélisation auprès du peuple chouar. Elle traverse des ponts de lianes, elle travaille même au milieu des animaux sauvages.
La donne era...
Chez les Chouars, la femme était pas maltraitée, mais elle n'était pas non plus considérée comme une personne autonome. Et sœur Maria Troncati a réussi à obtenir le fait que ces femmes apprennent à lire, à écrire, à coudre ou encore à cuisiner. Mais bien avant ça, et surtout qu'elles prennent conscience de leur personnalité, leur dignité.
Tour à tour infirmière, chirurgienne, religieuse, elle créera un hôpital à Macas. La foi de sœur Maria Troncati et son dévouement font d'elle une sainte femme. Mais sa particularité réside autre part. Elle a su créer un pont entre les colons et le peuple choir. Elle défend les terres et les droits des indigènes aux côtés des Salésiens. Lorsqu'elle meurt, en pleine période de tension à Macas, le 25 août 1969, son désir de paix est enfin respecté.
Un sujet réalisé par Nadège Descramps. C'est l'heure maintenant de passer à l'invité du dimanche. Catherine Aubin rencontre aujourd'hui Emmanuel Gabellieri, professeur à la faculté de philosophie catholique de l'Université de Lyon, dans le cadre du cycle de l'Institut français Centre Saint-Louis, intitulé « Ce qui se donne dans l'œuvre, philosophe et théologien au risque de l'art ». Il a donné à Rome récemment une conférence dont le thème était « Pesanteur, grâce et incarnation de Simone Veil à Giotto ». Et retour. Emmanuel Gabellieri est donc philosophe et actuel doyen de la faculté de philosophie et sciences humaines. Il a consacré une grande partie de ses travaux et publications à la pensée de Simone Veil. Il nous explique sa passion pour cette femme et son itinéraire spirituel qui va de l'agnosticisme vers la foi chrétienne. Ce brillant philosophe explique qu'après sa conversion, analysant rétrospectivement son parcours, Simone Veil a compris que sa recherche intellectuelle l'ouvrait à Dieu sans le savoir. Car pour elle, tout désir du vrai, toute contemplation du beau est un chemin vers celui en qui tout a été fait.
Emmanuel Gabellieri, parmi les grandes figures sur lesquelles vous travaillez depuis des années, la figure d'une philosophe, une femme, Simone Veil. Pourquoi cet intérêt pour Simone Veil, une figure finalement encore peu connue?
Alors écoutez, pour dire cela, on pourrait le dire sur le mode « il était une fois », une jeune étudiante de philosophie à la fin des années 70, qui recevait par ses professeurs, puisque j'ai fait après la terminale des classes préparatoires, donc ses études de philosophie avec des enseignants qui, à l'époque, étaient beaucoup marqués par le marxisme, les sciences humaines. Pas du tout de pensée chrétienne présente, et donc je me suis habitué à commencer à lire in petto des auteurs qui me parlaient davantage que ce que je recevais. Parmi ces auteurs, il y avait Gustave Thibon, le philosophe qui a accueilli Simone Veil pendant la guerre. Et en lisant Gustave Thibon, je découvrais qu'il citait cette Simone Veil dont on ne m'avait jamais parlé dans mes cours, etc. Et un jour, je me suis décidé à aller voir en direct parce que je me disais, il y a des choses géniales dans ce qu'il dit de Simone Veil, puis il y a des choses que je ne comprends absolument pas. Et donc, à un moment donné, comme je voyais autour de moi personne n'avoir vraiment travaillé cet auteur, je me suis dit, il faut y aller voir. Et bien, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai été amené à faire ma thèse d'état sur Simone Veil.
Avec un titre qui nous éveille à la curiosité, le don et l'être.
Oui, alors j'ai pris ce titre parce que ce qui me frappait chez Simone Veil, c'est qu'elle échappait un petit peu à certains dilemmes de la philosophie contemporaine. On oppose volontiers les philosophies de l'être et les philosophies de l'amour. Et ce que j'ai trouvé chez Simone Veil, c'est une pensée qui est capable d'articuler les grandes racines de la métaphysique, alors c'est notamment chez elle le platonisme, et une pensée de l'amour, alors au niveau mystique, ça sera une pensée de l'amour surnaturel. Mais quand on étudie toute la pensée de Simone Veil, depuis les années 30 où elle s'engage dans la condition ouvrière, en étant encore agnostique, jusqu'à la fin, il y a ce que j'ai proposé d'appeler chez elle une analogie du don, comme on parle d'une analogie de l'être. C'est-à-dire qu'elle a toujours été dans sa pensée, dans son action, de manière soit implicite, soit explicite, dans une dynamique du don, où, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau de l'action, il s'agit toujours pour elle d'élever l'être au niveau du don total et du don de soi. Celui qu'elle a déjà vécu dans les années 30 par ses engagements, même s'ils nous apparaissent des engagements révolutionnaires, proches des anarchistes et des trotskistes de l'époque, mais dans une ligne qui était celle de Proudhon et que le cardinal Henri de Lubac lui-même a très bien vu. Il y avait beaucoup de christianisme implicite dans cette volonté d'aller vers les pauvres. Et donc, lorsque, après son évolution spirituelle a eu lieu, sa rencontre du Christ, eh bien, elle a vu se révéler tout ce que cet implicite contenait d'explicitement chrétien. Et ça, alors, ça nous amène au cœur de sa pensée, c'est-à-dire qu'une des choses pour moi que j'ai trouvé les plus admirables chez elle et qui n'est encore pas assez déployée pour à la fois la commenter et puis en faire profiter au-delà d'elle-même ce qu'elle peut apporter à aujourd'hui, c'est qu'elle a été amenée à théoriser un passage de la foi implicite à la foi explicite qui rejoint beaucoup ce que, par exemple, le Concile Vatican II a retrouvé à travers le langage des semences du Verbe en dehors des murs du Temple. Et ça, pour nous, c'est très précieux aujourd'hui pour le dialogue interreligieux, par exemple, mais aussi pour le dialogue avec les incroyants. Et donc, j'ai trouvé tout cela chez elle d'une manière qui ne me venait ni de l'université d'État, ni des canaux ecclésiaux que je connaissais à l'époque.
Parce qu'il y a un moment important dans la vie de Simone Veil, c'est ce moment où elle bascule dans la foi chrétienne.
Oui.
Comment vous l'expliquez ?
Il y a plusieurs degrés de compréhension. Rétrospectivement, quand elle écrit son autobiographie spirituelle au Père Perrin en 42 à Marseille, elle lui dit très clairement qu'elle s'est toujours sentie chrétienne au plan moral, dès l'enfance. Elle découvre la figure de Saint François, elle est immédiatement en admiration devant la spiritualité franciscaine. Mais au sens où Saint François, c'est un idéal de pauvreté universelle, de fraternité universelle, de charité universelle, c'est le poète de la beauté du monde. Donc elle prend le christianisme comme un idéal éthique, esthétique, spirituel, mais elle est agnostique à ce moment-là. Donc c'est le plus bel idéal humain qu'on puisse avoir pour orienter sa vie. De sorte qu'elle va toujours agir, elle dira rétrospectivement, en fonction des valeurs chrétiennes. Ce qui va se passer, c'est qu'après les expériences terribles qu'elle a vécues, donc la condition prolétarienne qu'elle a voulu subir volontairement dans les années 30, bien avant donc les réformes du Front Populaire, et puis la guerre d'Espagne surtout, expérience de l'oppression et de la barbarie, elle va faire une expérience du malheur, comme elle le dira ensuite, qui va l'amener à se dire, eh bien humainement, dans certaines conditions d'existence, la nature humaine ne résiste pas au malheur, ne résiste pas à la barbarie. Et qu'est-ce qui peut répondre à ça ? Eh bien quelque chose de suprahumain. Et c'est là où elle va faire petit à petit, par différentes expériences, la rencontre du Christ, de manière d'abord implicite et puis après tout à fait explicite, jusqu'à cette chose inouïe qui lui arrive fin 38. Un jour, le Christ est descendu et m'a prise. Et ceci en récitant un poème qu'elle avait appris par des jeunes Anglais qu'elle a rencontrés à l'abbaye de Solesmes la semaine sainte 1938, du poète mystique anglais George Herbert. Love, c'est un poème qui, un peu dans le style de certains récits médiévaux, est un repas mystique, écrit sous forme poétique. Elle avait trouvé tellement beau qu'elle s'est dit « je vais le réciter comme un beau poème », parce qu'elle faisait ça très volontiers. Et puis, un jour, elle a compris que ce n'était pas simplement un beau poème, mais une prière, et que le Christ est venu la chercher à ce moment-là.
Emmanuel Gabelleri, quand on est passionné, comme vous l'êtes, par un auteur, par un philosophe, comment ce fil rouge se déploie-t-il dans votre propre vie, dans votre anciennement, dans votre existence ?
Alors je crois que ce qui me touche le plus chez Simone Veil, et je le vois confirmé souvent dans les rencontres que je fais de gens qui sont attirés par Simone Veil, c'est l'unité de l'existentiel, de l'intellectuel et du spirituel. Parce que ça, dans l'histoire de la philosophie, c'est rare que ça soit visible à un tel point. Et on ne peut pas lire Simone Veil sans être frappé du fait que le spirituel nourrit constamment l'intellectuel. Il n'y a pas de détachement possible. Alors ça, ben c'est vrai que c'est ce qui me touche de manière incroyable chez elle, parce que ben je crois que la pensée doit naître de la vie, doit naître de l'expérience spirituelle. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose de desséchant et d'abstrait dans la pensée et dans la philosophie. Et là, vraiment, Simone Veil nous libère de ce risque. Et en même temps, elle n'est pas passée de la philosophie à la mystique, comme le croient d'ailleurs encore un certain nombre de lecteurs ou de commentateurs ou d'historiens. Elle est restée philosophe jusqu'au bout. C'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un qui dit « le Christ est descendu et m'a prise » et qui reste philosophe après, parce qu'elle ressent que c'est une vocation de continuer à penser et à penser de manière critique. C'est d'ailleurs pour ça que, par rapport à l'Église des années 30, elle craint l'inquisition intellectuelle, elle craint que l'Église empêche la liberté de penser. Donc voilà, elle voulait garder sa liberté critique et elle l'a gardée alors même qu'elle avait une expérience supra-critique devant laquelle elle était complètement désarmée. Donc cette capacité de recevoir quelque chose que son intelligence critique ne pouvait absolument pas produire et en même temps de garder son intelligence critique jusqu'au bout pour penser les questions qui étaient angoissantes pour elle, sur le salut, sur la vérité, sur le bien, la justice, etc. Ça, je trouve ça prodigieux. Et ça, c'est quelque chose qui me rejoint profondément parce que moi-même, en tant que philosophe, qu'enseignant, je cherche à la fois donc à enseigner, mais aussi à être en lien avec les questions sociales, avec la question politique. Vous voyez, en tant que doyen de la faculté de philosophie de la Catho de Lyon, nous sommes héritiers de la tradition du catholicisme social lyonnais. Beaucoup de philosophes lyonnais ont participé aux Semaines sociales de France, à la fondation de tout ce mouvement. Et donc pour moi, que ces philosophes aient eu un engagement socio-historique comme ils l'ont eu, c'est aussi un exemple. Et Simone Veil, même si c'était dans un autre contexte socio-culturel et sociopolitique, ça me touche de la même manière.
Emmanuel Gabelleri, philosophe, c'était l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Et c'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. En attendant, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.